Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux Springboks, les Sud-Africains champions du monde de rugby 2023. Au Stade de France, les Sud-Africains ont conservé leur titre de champion du monde en battant les Néo-Zélandais 12 à 11. Ce tour de force, seuls les All Blacks de Ricky Macko étaient parvenus à le réaliser en 2011 et 2015. Mais les Boks, de leur capitaine Siya Kolisi, les ont rejoints avec ce doublé et dépassés en inscrivant pour la première fois l'Afrique du Sud au palmarès de la Coupe du Monde. 4 titres. 1995, 2007, 2019, 2023, en 8 participations. Cela dit beaucoup de choses sur la capacité d'une nation à se mobiliser. L'étroitesse du score, elle, nous raconte une autre histoire, où il est question de résilience, de volonté de ne jamais renoncer, un état d'esprit que le duo d'entraîneurs, Rassi Erasmus et Jacques Nienaber, a réussi à insuffler à une génération qui va tirer sa révérence. La victoire des Springboks pour un point, comme en quart de finale face aux Bleus, 29 à 28, comme en demi-finale contre l'Angleterre, 16 à 15. Les Springboks auraient pu craquer dans les dernières minutes de cette finale, aussi étriquée et poignante que celle de 1995, quand les Blacks ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Qu'a-t-il manqué aux Néo-Zélandais? Un peu d'énergie. Sans doute. Mais ils ont payé au prix fort le carton rouge de leur capitaine, Sam Kane, dès la 29e minute. Celui-ci poursuivra sa carrière au Japon, comme un exil. Le Japon, le nouvel Eldorado du rugby professionnel au même titre que la France. L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, un des héros de cette édition 2023, y terminera aussi sa carrière. La pluie et le vent ont très vite réduit les options des Néo-Zélandais, les obligeant à s'aventurer dans ce périmètre où le pack sud-africain les attendait. Pas de quartier. L'ouvreur sud-africain de Montpellier, André Pollard, a ouvert le score et les Boks ont pris l'ascendant, en variant leur jeu, en alternant le défi frontal, le jeu au pied de pression, avec leurs ailiers, et notamment un phénoménal Cheslin Kolbe, l'ancien joueur de Toulouse et de Toulon, pour harceler l'arrière-garde néo-zélandaise. Durant ce premier acte, il n'y a eu rien de fluide dans le jeu. Il y a eu 100 batailles sur la pelouse du Stade de France. Pas une touche qui n'ait été contestée par les deux alignements. Toutes les collisions ont été virulentes. Et après le carton jaune de Shannon Frizzell, le troisième ligne néo-zélandais, sur le talonneur sud-africain Bongi Bonambi, qui a dû quitter le terrain, le capitaine néo-zélandais Sam Kane, à son tour, a écopé d'un carton rouge pour un plaquage haut sur le sud-africain Jesse Kriel. En supériorité numérique, les Sud-Africains se sont enhardis, ont écarté le ballon jusqu'aux ailes, ont accentué leur pressing. Et l'ouvreur Pollard a récompensé leur période de domination. Et l'ouvreur Pollard a récompensé leur période de domination. Mais il suffit de peu de choses aux Néo-Zélandais. C'est une constante de leur rugby. Ils n'ont eu que deux vrais temps forts en première mi-temps. Même en infériorité numérique, ils ont basculé en mode survie. L'ailier Mark Telea et le troisième ligne centre, Hardy Savea, ont été les instigateurs de la rébellion néo-zélandaise. Et deux pénalités de leur ouvreur Munga leur ont permis de rentrer au vestiaire avec un retard seulement de 6 points. C'était un moindre mal. Mais les Sud-Africains ont attaqué la deuxième acte avec l'intention de sceller le destin de cette finale très rapidement. Le numéro 6 et capitaine Siya Kolisi, repris devant la ligne par l'arrière All Black Boden Barrett, puis le trois-quarts centre, Kurtlid Arendse, tout près d'y parvenir. Avec le carton jaune à la 45e minute, alloué au capitaine des Sud-Africains pour un plaquage haut sur Savea, la dynamique s'est alors inversée. Dans ce match aux 1000 rebondissements, le demi de mêlée Aaron Schmidt s'est vu refuser un essai par l'arbitrage vidéo pour un en-avant de Savea, mais l'arrière Boden Barrett a trouvé l'ouverture en bout de ligne. Cet essai n'a pas été transformé par Munga, mais les All Blacks étaient revenus à un point. Et surtout, Ils donnaient le sentiment d'avoir trouvé des solutions avec leur renversement d'attaque et leur course croisée pour perturber les montées défensives des Springboks. À l'entame des 10 dernières minutes, l'intensité dramatique a grimpé de plusieurs crans. Et Cheslin Kolbe, à son tour, a pris un carton jaune pour un geste d'anti-jeu alors que l'arrière Boden Barrett se montrait menaçant. Son frère, Jordi, a raté la pénalité de la 75e minute. Les Blacks venaient de laisser passer leur chance. Le vétéran deuxième ligne, Sam Whitlock, devenu le All Black le plus capé avec 153 sélections, ne marquera pas l'histoire de son sport en devenant le premier joueur à disputer et gagner 3 finales de Coupe du Monde de rugby. Sam Whitlock va rejoindre la section paloise et le top 14. Le capitaine sud-africain Siya Kolisi, 32 ans, 1m88, 105 kg, est le véritable chef de guerre des Springboks. Une légende arc-en-ciel, Kolisi va rejoindre pour 3 ans le Racing 92 et le top 14. Siya est le diminutif de Siyam Tanda. Dans la langue du peuple Xhosa, ce nom signifie « nous l'aimons ». Une bibliographie d'abord publiée en anglais en 2021 sous le titre « Rise » vient d'être publié en français sous le titre « Vaincre ». Rise veut dire « s'élever » et indique surtout que ce mot est la signification anglaise du prénom Xhosa de sa mère, Fakama, morte alors qu'il avait 15 ans et dont le visage était marqué d'atroces stigmates de la violence des hommes. Son père, peintre intérimaire en bâtiment et souvent absent, Siya Kolisi, ne peut compter que sur sa grand-mère. Siya Kolisi est né le 16 juin 1991 dans le township miséreux et surpeuplé de Zaïd, situé à l'extérieur de la ville de Port-Elisabeth, dans la province du Cap-Oriental. 3 ans après, Nelson Mandela, d'origine Xhosa comme lui, accède au pouvoir après la période apartheid de 1948 à 1994. Dans son livre, Kolisi ne cache rien de ses dérives. Boire de l'alcool, la drogue, se battre dans la rue. C'est d'abord le rugby qui le sauve. Grâce à un programme de discrimination positive, il obtient une bourse sponsorisée par un homme d'affaires. On ne rejoint pas l'élite professionnelle en jouant dans un club de quartier, mais un étudiant dans un lycée prestigieux, souvent privé et aux frais de scolarité inaccessibles pour la grande majorité de Sud-Africains. Kolisi a eu beaucoup de chance. À 22 ans, il devient un Springbok. Si les Noirs représentent la majorité des joueurs dans les écoles et les petits clubs, ils sont seulement 20% dans les franchises professionnelles. Sa fondation actuelle s'oriente vers les 3 centres d'intérêt suivants: les violences faites aux femmes, la sécurité alimentaire, l'éducation. En Afrique du Sud, une femme est assassinée toutes les 3 heures. Ce fatal 15 octobre 2023, en quart de finale, l'Afrique du Sud a éliminé la France, d'un point, 29 à 28. C'est pour le moment la meilleure audience de la chaîne TF1 avec 17 millions de téléspectateurs. Les femmes y représentent désormais 30% des supporters. 1,5 million d'euros de retombées économiques. La cote du rugby progresserait auprès des entreprises. Les sponsors traditionnels du 15 de France, Société Générale, GMF, Canal+, ont mis les bouchées doubles. La comparaison du rugby, 300 000 licenciés avec le football et ses 2 millions de licenciés est alors inévitable. Le budget d'un club comme Toulouse est de 45 millions d'euros. Rien en comparaison avec les 700 millions d'euros dont dispose le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar. Le ballon rond bénéficie de la manne des droits télévisés. Le 18 décembre 2022, 24 millions de Français avaient suivi la finale de la Coupe du Monde de football Argentine-France. Si l'on s'intéresse au salaire, le demi de mêlée capitaine emblématique de l'équipe de France, Antoine Dupont, gagne 600 000 euros bruts par an au Stade Toulousain, auquel il faut ajouter les contrats de sponsoring et les primes. Le demi de mêlée du 15 de France est encore loin des émoluments perçus par Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. 200 millions d'euros annuels, sans compter les diverses primes ou engagements auprès d'un lanceur comme Nike. Le footballeur compte 109 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Antoine Dupont, seulement 815 000. La fête du rugby 2023 est finie. La prochaine Coupe du Monde aura lieu en 2027 en Australie, dans un pays culte, 2 fois champion du monde en 1991 et 1999, mais qui cette année est resté aux portes des quarts de finale, écarté par le pays de Galles et les surprenants Fidjiens. L'entraîneur Fabien Galthié reste à la tête de la sélection. Le nouveau président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, et le vice-président délégué au haut niveau et à l'arbitrage, Jean-Marc Lhermé, lui font confiance. La France espère se maintenir dans les meilleures nations mondiales avec cette génération dont l'âge moyen n'est finalement que de 27 ans et l'apport des jeunes champions du monde pour la troisième fois d'affilée, les U20. L'Afrique du Sud, en devenant deux fois de suite champion du monde, va susciter des vocations dans un pays qui jouit d'un potentiel tout simplement exceptionnel. La Nouvelle-Zélande va bénéficier de l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, Scott Robertson, cinq fois titré avec les Crusaders dans le Super Rugby. L'Irlande, Grand Chelem 2023, première au classement mondial, sera toujours là, disposant d'une relève intéressante. Et l'Angleterre, battue en demi-finale par l'Afrique du Sud dans les dernières minutes, va travailler dur pour revenir très fort. Son humiliation face à la France en 2023, chez elle à Twickenham, 53-10, aura eu du bon. Le rugby et ses rebonds insaisissables et imprévus.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.